Radio Déclic 106.3, nous sommes à la librairie Littérature. Alors littérature, ça s'écrit L-I-S, donc il faut lire des livres. Thé, parce qu'on peut venir boire un thé, donc T-H-E. Et puis rature, parce qu'il n'y a pas de rature, il y a plein de livres. Donc c'est la librairie Littérature. Ben alors tout clairement, Roxane, présentez-nous la librairie.
Littérature, c'est donc un endroit en fait où vous pouvez retrouver trois thématiques. Donc vous avez la partie salon de thé où les gens peuvent boire un thé du coup et déguster des pâtisseries. Ensuite on a la partie librairie du coup où ils peuvent venir acheter des livres et se faire conseiller. Et vous avez ensuite un grand espace de coworking. Donc d'un côté vous avez un espace de travail qui est partagé où les gens peuvent venir donc bosser en fait avec leur PC. Et à côté vous avez une grande salle de réunion qui peut être louée du coup à la journée ou à la demi-journée.
D'où est venue cette idée de littérature ?
Alors, sincèrement, à la base, j'étais pas partie pour créer. Enfin, en tout cas, j'aurais jamais imaginé que j'aurais un jour mon entreprise. À la base, moi, je travaille dans ce métier depuis 7 ans à peu près. Et en fait, j'ai souvent bossé pour des grosses enseignes culturelles à chaque fois, où je m'occupais donc de la partie littérature. Et là, dans mon dernier emploi, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument aucune partie aucune partie littérature afro dans l'espace dont je m'occupais. Ce que je trouvais anormal, en fait, puisque la demande était là, les clients demandaient en fait régulièrement mais comment ça se fait que vous avez un espace aussi grand? Pourquoi il n'y a pas de littérature afro? Pourquoi on ne trouve pas d'auteur entier? Pourquoi il n'y a rien? Enfin, et en fait, à la longue, moi, j'ai fini par demander à mettre en place en fait une petite table où on retrouvait la littérature afro et j'ai invité les auteurs donc concernés. Et c'est là en fait où un jour un de mes anciens collègues m'a donc accusé de faire du communautarisme. Tout ceci en fait la présence en fait d'un autre collègue qui m'a même affirmé que oui ça s'apparente même à de la discrimination positive ce que tu fais. Donc rappelons que ce sont quand même des personnes qui n'avaient absolument aucun problème avec le fait d'avoir des auteurs par exemple très majoritairement blancs et masculins. On parle quand même du milieu de la BD, hein, mais que effectivement voilà comme d'habitude. Dès qu'il y a une initiative pour rééquilibrer les choses, en fait, pour amener de la diversité, à chaque fois, comme d'habitude, voilà, c'est cette accusation-là qui tombe. Et moi, j'en avais marre, en fait, tout simplement. Ça m'a mise très en colère. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, d'ouvrir un lieu où, bien au contraire, chacun pourrait être reconnu, valorisé, qui serait ouvert, du coup, à tout le monde.
Alors, la librairie, donc il y a différents rayons. Hein. On trouve le rayon afro-PN, Outre-mer, Caraïbes, culture africaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence de ces mots?
Alors, la différence de ces mots, donc, fait débat hein, parmi mes clients. C'est-à-dire que j'ai une... En fait, c'est... Bon, je rappelle que, comme dans tout secteur culturel, il n'y a vraiment pas de science exacte ou de classification unique. Enfin, c'est pas du tout... c'est pas comme dans les bibliothèques, par exemple. Vraiment, là, on a un système de classement voilà, qui est unique et qui est très codifié. Là, vraiment, j'ai choisi, en fait, de... classer naturellement les ouvrages comme déjà je les sentais et puis de me fier aussi à la demande des clients. Par exemple, c'est pour ça que la littérature d'outre-mer est dans le même rayon que la littérature afro-caribéenne, parce que les gens les cherchent au même endroit. C'est comme ça, la majorité de personnes les cherchent au même endroit. La littérature afro-péenne, pareil, donc qui est un terme qui est assez méconnu en fait et avec lesquels les gens ont parfois du mal. Le concept d'afro-péen en fait est arrivé, alors pour moi en tout cas, c'est Leonora Miano qui a popularisé vraiment le terme dans un roman qui s'appelle Blues pour Elise, où elle en parlait. Vraiment, on avait un personnage qui était défini clairement comme afropéen. Et la littérature afropéenne, en fait, selon moi, renvoie en fait à des, tout simplement aux auteurs afrodescendants, tout simplement. Donc, c'est donc par exemple des Français ayant des origines camerounaises. Vous avez Gaël Faye, vous avez aussi les auteurs du Maghreb, donc qui sont français, hein, qui sont des auteurs francophones, mais qui sont sont aussi afro-descendants. Et alors, encore une fois, j'insiste sur le fait, c'est pas du tout une science exacte, mais souvent, du coup, moi, j'ai beaucoup de clients, en fait, qui sont en demande de cette classification-là, parce que les thèmes, les problématiques qui sont abordées dans les romans, eh bien, leur ressemblent la plupart du temps. Ils peuvent, par exemple, c'est pas quand on lit un roman de littérature africaine, donc je pense notamment à Sunny Labutanti, qui a écrit des romans fabuleux sur la guerre. Quand vous avez certains romans de littérature africaine qui parlent de la guerre, de la polygamie, de l'excision, c'est pas forcément des problématiques dans lesquelles les afros occidentaux qui vivent ici peuvent forcément se projeter. Vous avez des clientes par exemple qui cherchent des cobénies de célibataires avec des femmes qui ont des histoires d'amour, qui ont des galères de boulot, qui sont françaises et dans lesquelles elles peuvent se projeter. Après, le reproche qui a pu être fait à cette catégorie, c'est il faut pas mettre absolument des étiquettes, puis ça n'a pas de sens. Je peux le concevoir, mais en tout cas, moi, le constat que je fais dans mon métier, c'est que la demande est quand même là, et j'ai même des auteurs qui insistent pour être classés dedans.
Et c'est très important aussi, c'est qu'il y a un rayon jeunesse qui est très fourni, je dois dire, au niveau des livres pour les jeunes. Donc, un mot sur ce rayon jeunesse.
Alors, le rayon jeunesse, c'est le plus important de la librairie, parce que c'est celui qui parle le mieux, en fait, ici. Hein. C'est vraiment là où il y a le plus de demandes, en particulier. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je l'ai divisé en deux. Du coup, on a jeunesse d'un côté, avec des albums plus classiques, des imagés, des abécédaires, etc. Et ensuite, on a un coin jeunesse afro. Donc, en fait, dans la partie jeunesse afro, on retrouve pas uniquement des albums en fait écrits par des auteurs afro, on retrouve aussi des albums qui sont écrits par tout type d'auteurs, mais mettant en scène du coup des petits garçons ou des petites filles afro, et ça c'est vraiment important, enfin c'est l'un des autres aspects auxquels je suis le plus attachée. C'est vraiment important de se rendre compte qu'il est indispensable que les enfants se voient, enfin j'ai l'impression que dès qu'on parle justement du problème, par exemple de l'énorme problème de diversité qu'il y a en littérature jeunesse. Il faut quand même savoir qu'il y a quelle étude exactement, mais il y a des chiffres là qui sont sortis l'année dernière qui montraient que 98% des productions jeunesse en albums, en livres, mettent en scène des enfants blancs. C'est assez grave quand on se rend compte qu'on a quand même un gros panel aussi de petits garçons et de petites filles qui ne le sont pas et qui ont besoin aussi de se voir, de voir des héros avec des cheveux, les mêmes cheveux qu'eux, la même couleur de peau que, enfin c'est super important. Et la partie jeunesse, alors pareil, on a donc des albums avec des contes traditionnels africains par exemple, et moi je cherche, alors c'est un petit peu plus difficile, mais je mets un point d'honneur en fait à proposer à mes clients des albums où on voit des enfants afro qui sont habillés, qui ne vivent pas en Afrique, avec les animaux de la savane, qui ne se baladent pas tout nus, qui ne s'appellent pas Kirikou, voilà, qui ont une vie tout à fait, qui ont un quotidien comme des millions d'enfants français, qui ont besoin d'apprendre à faire leurs lacets, qui vont faire des courses, qui ont des jouets, enfin c'est voilà, et ça c'est vraiment la jeunesse pour moi, c'est l'avenir. Et je pense que quand on aura fait cet effort-là de transmission, de reconnaissance aussi de ce besoin qu'il y a pour les parents d'avoir des ouvrages où leurs enfants puissent se voir, eh bien je pense qu'on aura fait un énorme pas en avant. Et voilà, donc arrêtons, ça vraiment je dédie ce message à tous les éditeurs, surtout vraiment les grosses machines, les libraires qui ne pensent jamais à ça, et que quand vous leur faites la réflexion, vous répondent, ça va, faut pas voir le mal partout. C'est pas qu'on voit le mal partout, c'est on veut se voir. Voilà, c'est tout ce qu'on a demandé, et je pense que c'est pas trop demandé. Voilà.
Philo.
Alors justement, en parlant des demandes des clients, je voulais savoir, c'est pas péjoratif, mais quel genre de client qui vient le plus depuis l'ouverture de ta librairie? Oui.
Alors c'était très varié en fait, donc bien sûr en priorité il y a eu beaucoup d'afro, parce que je pense que le lieu était très attendu, donc pas moi particulièrement, mais je veux dire vraiment le type de lieu où vraiment on a la littérature afro qui est valorisée, donc c'est vrai que là il y a eu un enthousiasme qui m'a fait vraiment plus chaud au cœur, parce que j'ai vu beaucoup d'afro venir, mais vraiment de tout, c'est-à-dire de tout bord, hein. Il y avait des gens qui se sont déplacés de Bruxelles, d'autres qui sont venus vraiment de l'opposé de ma ligne de métro par exemple, enfin, c'était vraiment des quatre coins de Paris et des fois même d'Europe, donc c'était assez fou. Et après, après, vous avez aussi des clients blancs, en fait, qui ne connaissent pas du tout, en fait, la littérature africaine, qui sont pas du tout familiers, en fait, des auteurs et de ce qu'on peut y trouver comme référence, et qui, du coup, sont curieux, en fait, et demandent à être conseillés là-dessus et à découvrir. Et puis, en dernier lieu, vous avez les gens du quartier, tout simplement, qui voient qu'un nouvel endroit a ouvert et du coup, qui sont vite devenus des habitués. Là, c'est plus facile parce qu'ils sont juste à côté, donc c'est plus simple. Donc, je suis vraiment contente parce que effectivement, c'est très hétérogène en fait, parce qu'on a des hommes, on a des femmes, on a des gens qui sont plus âgés et d'autres qui sont très jeunes. Et du coup, je pense que c'est aussi une vraie revanche en fait. Et je parle pas que de moi, je parle de tous les projets en général qui étaient tournés vers la valorisation de la culture afro et qui chaque fois se sont vus frappés en fait du sceau du communautarisme. C'est aussi le moyen de prouver, regardez, on peut avoir un lieu qui est orienté qui met en valeur la littérature et les créations afro, et pourtant qui est ouvert à tout le monde et qui n'est pas replié sur lui-même. Donc c'est possible.
Il y a très peu finalement par rapport aux autres de livres afro-américains, mais en même temps, il y a beaucoup de livres, donc plus afro-péennes ou Caraïbes. Bon, là, le rayon a été un petit peu dévasté, mais et beaucoup de livres de femmes aussi. Alors ça, est-ce que c'est voulu ?
Alors, pour la littérature afro-américaine, c'est vrai, déjà je suis tout à fait d'accord, il y en a moins. Alors la raison est très simple, c'est que mes clients en tout cas préfèrent du coup la lire en VO, ce que je comprends tout à fait, et que j'ai du mal pour l'instant à me fournir en roman vraiment et anglophone, écrit vraiment en langue anglaise. Donc voilà, ça c'est le prochain point vraiment à travailler. Donc c'est pour ça qu'elle est effectivement, pour l'instant, le rayon est un petit peu plus réduit. Et en fait, je m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait une grande majorité de femmes dans les auteurs que j'ai sélectionnés. Je le redécouvre du coup. Après, il y a aussi les clients aussi participent beaucoup du choix qui est fait, parce que du coup, moi, je considère en fait que même si c'est mon métier, j'ai pas le pouvoir suprême. Je ne suis pas la référence suprême, je ne peux pas tout connaître. Donc du coup, je tiens vraiment à ce que tous les gens qui viennent à la littérature soient aussi acteurs de ce qu'ils ont envie de lire. Et ils peuvent du coup m'envoyer ce qui s'appelle des wishlists. Donc qui me passent me les déposer au magasin, ou d'autres qui me l'envoient par mail. Et ils peuvent en fait lister les coups de cœur, les livres qu'ils ont vraiment adorés, les livres qui sont selon eux incontournables à avoir. Et donc l'offre qu'on a maintenant ici est composée de ça. C'est composée en partie de ce que j'ai dû aimer, en partie des classiques que vraiment je voulais avoir, et puis en grosse partie aussi des choses que les clients ont proposées et apportées d'eux-mêmes.
Oui, d'ailleurs, tu disais que tu as lu et aimé. J'avais une question. En fait, depuis quand t'es venue cette passion de lire, et saurais-tu me dire combien de livres tu as lu ?
Alors oui, je peux répondre à la première question. Donc ma mère est professeure de français, donc c'est vrai que il y a toujours eu des classiques, des grosses bibliothèques à la maison. Donc mon père était pas très très fan de la télé, donc des fois t'avais le choix, c'était soit tu pars faire ta sieste, soit tu lis, mais voilà, il y a pas de télé. donc c'est vrai que j'ai beaucoup, très tôt, je pense vers dès l'âge de 5-6 ans, j'ai vraiment commencé à aimer la lecture. Après, j'ai découvert que je pouvais écrire aussi, que j'aimais écrire. Et après, au niveau des... Par contre, pour le nombre de livres que j'ai lus, alors ça, je ne saurais pas te dire. En moyenne, en tout cas, j'en lis au moins 2 par semaine. Bon, là, ça s'est en plus intensifié parce que je reçois... il faut traiter aussi les livres que les éditeurs envoient, les jeunes auteurs aussi qui viennent proposer leur premier bouquin. Donc, je pense que ça doit faire pas mal, du coup.
Alors, quand on parle d'Afrique, et là, en l'occurrence, dans cette librairie, c'est vraiment le continent africain et Afrique du Nord y compris, parce que notamment on voit dans la partie afropéenne, il y a Faïza Guen qui est là.
Oui, exactement. Bon, j'avoue, je suis un peu tatillon là-dessus, parce que c'est vrai que, par exemple, quand j'ai installé la table de littérature afro dont je te parlais dans mon ancien emploi, j'ai reçu plusieurs critiques en fait de clients qui venaient me voir en disant oui, mais pourquoi vous placez le Maghreb, les auteurs maghrébins dans la littérature africaine. Bon, je rappelle donc le Maghreb en fait est en Afrique, donc vraiment, voilà, pour moi c'est vraiment débat qui n'a pas lieu d'être. Donc c'est vrai que voilà, là je fais ma relou en fait, hein, mais c'est vrai que je mets un point d'honneur à placer les auteurs du coup du Maghreb en littérature africaine et les auteurs donc d'origine maghrébine, donc français ou européen en fait d'origine maghrébine, sont aussi pour moi des afrodescendants comme nous tous. Donc voilà.
Et puis peut-être pour finir, parce que c'est aussi, alors il y a plein de nouveautés, plein d'innovations chez Littérature, et il va y avoir samedi le premier salon de BD afro.
Oui, c'est mon petit bébé, du coup, je crois que c'est le plus gros événement qu'on ait fait là, depuis que j'ai ouvert. Donc du coup, en fait, c'est une idée que j'ai eue, surtout en constituant mes références en fait, pour le rayon jeunesse. Je me suis dit, en fait, quand j'ai pu découvrir le panel en fait, d'auteurs et d'illustrateurs, donc là, on a la jeunesse, mais on a aussi des auteurs de BD que je ne connaissais pas du tout. Alors c'est vrai que le secteur de la bande dessinée, c'est un sujet que je maîtrise beaucoup moins puisque ma partie c'est plutôt la littérature, et donc j'ai eu des auteurs de BD afro qui sont venus me voir pour montrer leur travail, et à force d'en recevoir plusieurs, je me suis dit mais attends, il faut absolument créer un événement où non seulement ils puissent être découverts et montrer leur travail, et qu'ils puissent aussi se rencontrer entre eux. Je crois vraiment à la fédération en fait des uns des autres, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place ce salon. Donc là samedi effectivement toute l'après-midi, on va avoir, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que on va avoir autant des auteurs de BD que des illustrateurs ou des dessinateurs. On va avoir des professionnels donc qui ont leur ouvrage publié, et on va avoir aussi des amateurs, même des amateurs qui tiennent un petit blog de BD. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a des femmes, on a des hommes, et ça c'était vraiment important. Et du coup, pour le public aussi qui va pouvoir du coup venir et rencontrer. Enfin, même moi-même qui organise le salon. Enfin, il y avait une grosse partie des auteurs que je reçois, dont je ne connaissais pas le travail, et je pense que c'est important. Il y a aussi on va faire une table ronde autour de la création graphique sous toutes ses formes, pour permettre à chacun, notamment ceux qui font de la BD engagée, de pouvoir expliquer ce qui les inspire, pourquoi ils ont choisi de traiter certains sujets de la manière dont ils le font, et je pense aussi pareil, toujours dans cet esprit d'être ouvert à tous, et bien que ça permet aussi de voir, enfin, de vraiment de réduire à néant cette excuse que, en gros, si on ne vous voit pas, si on ne vous met jamais en valeur, si on ne vous écoute pas, si on ne répond pas à vos besoins, mais c'est parce que vous ne faites rien. Mais non, voilà, on est là, il y a des choses magnifiques qui sortent tous les ans, dont on n'entend jamais parler, et je voulais vraiment créer une belle occasion qu'on puisse voir ces travaux-là. Voilà.
Rendez-vous samedi 29 avril pour le salon de la BD Afro à la librairie Littérature, 69 Allée du Forum, 92 100 Boulogne-Billancourt.
Le son du monde.
Ouais.